Voilà, bonjour à chacun, chacune. On est vraiment très très heureux d'être avec vous ce matin. C'est toujours émouvant de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais une salutation spéciale pour David, qui est tout au fond là-bas. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des chouchous, hein, mais... Et je me souviens de David... Et tous les bons souvenirs qu'on a eus ensemble avec la jeunesse. Voilà, il me disait, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Dis donc, le temps passe, hein. Le temps passe. Puis je vois des jeunes, alors la dernière fois que j'étais venu, certains jeunes avaient témoigné, mais je ne me souviens plus de vos visages. Vous allez bien? C'est vous qui avez témoigné? Oui, vous reveniez de Caen, là. Vous vous souveniez de ce que vous avez vécu dans les camps, ça a bien fructifié. Oui, c'est toujours actif, c'est bien. Voilà, alors je voulais vous donner la suite du 30 août, et puis finalement il y a une autre pensée qui s'est un peu imposée. Alors je ne sais pas si c'est pour une personne, mais bon, si c'est que pour moi-même, c'est bien, vous aussi, en égoïste. Voilà. Et j'aimerais partager vraiment une parole avec vous dans l'Épître aux Hébreux. Si on peut la lire ensemble, si vous voulez m'accompagner, au chapitre 12 et au verset 1er, où l'auteur nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » L'auteur écrit cette épître qui est si riche à des juifs qui découvrent Jésus, qui se sont convertis, qui ont réalisé qui était Jésus. Et pour cela, eh bien, ils affrontent une persécution. Et le risque est grand de se décourager, de retourner au judaïsme et à tous les sacrifices pour ne plus voir qui est réellement Jésus. Et l'auteur donc voit deux risques à ses frères qui viennent de se convertir, de découvrir Jésus. Deux risques de se lasser et finalement d'avoir l'âme découragée, et après tout son charter qui va avec, les doutes et finalement l'abandon. Et le retour à un sacrifice et oublier vraiment ce que Jésus a fait. Se lasser et se décourager. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent faire que dans la vie du chrétien, on puisse à un moment donné, pour différentes raisons, se lasser et avoir l'âme découragée. Alors l'auteur donne un conseil. Ayez les regards fixés sur Jésus. C'est bien, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir les regards fixés sur Jésus. Avoir 24 heures sur 24, les yeux fixés sur... Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et ma petite sœur, tu as parlé du regard tout à l'heure. Et je crois qu'en tant que chrétien, nous devons avoir vraiment clairement deux sortes de regards. Nous avons évidemment nos yeux physiques avec lesquels je m'empare du monde, de mon environnement. Un regard physique qui lui-même va m'amener dans deux directions différentes, à regarder, comme le dit le texte, des témoins qui nous environnent, des témoins qui marchent avec Christ et qui sont là, et qui sont vraiment des exemples. Et je regarde à leur vie, à ce qu'ils font. Et pour moi, ils sont précieux parce que ce sont des exemples. Et je regarde comment ils font, comment ils affrontent les problèmes. Parce qu'ils ont un vécu avec Christ. et ça m'apporte beaucoup. Mais je peux avoir aussi ce même regard avec mes yeux physiques, dans plein de circonstances différentes, et ces circonstances peuvent m'encourager, mais aussi me décourager. Et mes yeux physiques peuvent considérer tout ce qui est négatif. Et là, je peux risquer de me lasser, de me décourager, et de plus considérer qui est vraiment Jésus. Et puis, en tant que chrétien, il y a un autre regard qui est aussi important, sinon plus, que mes yeux physiques. On peut le regarder ensemble, ce deuxième regard. Je vous invite à faire une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Et c'est une prière qui est plus qu'une prière, c'est une prière à vivre, à vivre. Et dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 15, il nous est dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et à votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infiniment grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alors bien sûr, on pourrait détailler cette prière et découvrir des perles pour notre vie. Mais j'aimerais simplement retenir que Dieu veut nous donner une révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions que tous ces trésors, toutes ces promesses sont pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que on ne voit bien que par le cœur. L'essentiel est invisible pour nos yeux physiques. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il est important, frères et sœurs, que les yeux de notre cœur soient éclairés par l'Esprit de Dieu, pour qu'on réalise tout ce qui nous appartient en Christ, tous les trésors, toutes les promesses qu'il a pour chacun d'entre nous. Et que ce soit pas seulement une prière, mais une prière à vivre au quotidien. Vous savez, quand on parle à quelqu'un, ou quand quelqu'un nous parle, il y a des fois on se surprend quand je parle à quelqu'un, au bout d'un moment, je réalise qu'il ne comprend pas du tout ce que je suis en train de lui dire. Alors, on réfléchit vite, alors j'ajoute des arguments pour que cette personne comprenne ce que je vais lui dire. Des fois c'est l'inverse, on me parle, je me dis, je ne comprends rien de ce que je lui dis pas. Mais en moi-même, je dis, je ne comprends rien de ce qu'il me dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre, je sais pas. Alors il argumente, ou c'est moi qui argumente, et puis arrive un moment, ah, à force d'arguments, ah, ça y est, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Non, j'ai compris. Voir, c'est comprendre. J'ai compris ce que tu me dis, je comprends ta vision, je comprends ce que tu veux me dire. Il est important de comprendre, de voir avec les yeux du cœur ce que Dieu veut nous dire. Ce que veut. L'œil physique, il est extraordinaire, mais il s'empare de tout ce qu'il y a dans la vie. On ne se rend pas compte de tout ce que nos yeux avalent dans une journée. Rendez compte qu'avec nos yeux physiques, le monde entier entre en nous. Tout ce qu'il y a de bon, mais tout ce qu'il y a de moins bon et de pas bon du tout. C'est David qui disait « Je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. » Parce que si c'est des bonnes choses, ça va m'influencer. Mais si c'est des mauvaises choses que je permets à mes yeux de voir, ça va m'affecter, ça va m'infecter. Pour ça que Christ dit, faites attention, parce que les yeux, c'est la lampe du corps. Et si mon œil a un mauvais état parce que je lui fais avaler des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, combien grandes seront mes ténèbres ? La lampe, les yeux et la lampe sont la lampe du corps. C'est pour ça que David disait, je ne mets rien de mauvais devant mes yeux, pour ne pas être infecté. Mais au contraire, je mets une garde à mes yeux. Et puis, avec les yeux du cœur, ça c'est la perception spirituelle que je vais avoir. Quand le Seigneur enseignait, à un moment donné, il va dire, si vous ne me croyez pas, quand je vous parle des choses terrestres, comment me croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Et vous êtes amené à comprendre, à voir les choses célestes. Elles sont pour vous. Vous devez y entrer. Et je lisais un passage dans Éphésiens qui m'a interpellé. Parce que finalement, c'est ce qu'on était avant de le connaître. Mais ça m'aide aussi à avoir de la compassion pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que j'étais dans le même état. Mais quand je relisais ce texte, je me dis, mais c'est quand même effrayant. Effrayant pour un non-chrétien. Et de là, la compassion qu'on doit avoir, frères et sœurs. Regardez ce passage, il est fort dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, au verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la volonté de leurs pensées. Regardez au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur ayant perdu tout sentiment. C'est effrayant. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Mais nous, c'est le contraire. Que les yeux de votre cœur soient illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est glorieux ce que le Seigneur a pour nous. Le Seigneur dira encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez. Nous sommes amenés à le voir, le Seigneur, dans notre quotidien, dans notre quotidien. De là le conseil, avoir les yeux fixés sur Jésus contre la lassitude et contre le découragement. Et par son esprit, par sa vie en nous, ma foi, mon espérance, se vit dans des réalités que je vois avec mes yeux physiques et que je dois gérer, mais ma foi et mon espérance reposent aussi sur des choses que je ne vois pas encore, mais qui sont aussi réelles que ce que mes yeux physiques voient. Je vois le visible avec mes yeux physiques, mais je perçois aussi l'invisible. Je perçois aussi le céleste comme une réalité aussi vraie que mes yeux physiques vous voient. Nous sommes amenés à vivre l'invisible. Ce n'est pas de la science-fiction, mais éclairé par l'Esprit de Dieu, je vois des réalités spirituelles que je ne peux pas percevoir avec mes yeux physiques. Et cela, ça nous amène finalement à faire des choix dans nos vies, entre les trésors de la terre que ce monde veut nous offrir et avec les trésors célestes. Je choisis ces trésors célestes. Ma perception du céleste m'amènera à aider à vivre mon quotidien. Nous vivons et nous agissons en tant que chrétiens à la vue d'un avenir céleste, frères et sœurs. Notre avenir est céleste. Notre foi, notre espérance s'attache à des réalités invisibles que je ne vois pas encore. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, nous espérons ce que nous ne voyons pas encore. Nous ne voyons pas encore, mais nous l'espérons. Parce que ces réalités que nous ne voyons pas, elles sont devenues tellement réelles par l'Esprit de Dieu. Alors Paul dira, c'est pour ça que je persévère parce que je les perçois, ces choses que je ne vois pas encore. Vous savez, Moïse a lui-même expérimenté cette prière de Paul, comme nous aussi nous devons l'expérimenter. Regardez dans Hébreux au chapitre 12. Chapitre 11, pardon. Hébreux au chapitre 11. Il nous est parlé de Moïse. Et il nous est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi ? Pourquoi ? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Rendez compte la vie qu'il aurait pu avoir à la cour d'Égypte. Pourquoi il a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Pourquoi il s'est montré ferme? Pourquoi il a eu ce courage, Moïse? Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Frères et sœurs, dans nos difficultés, dans nos périodes de découragement, fixez nos yeux sur celui qui est invisible. Et le percevoir avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui est en nous, comme si c'était une réalité visible que je voyais, que je vivais. Je vois mon Seigneur. Je vois mon Seigneur. C'est ce qui nous aide, comme Moïse, dans ses difficultés. Il fixait ses regards sur celui qui est invisible. Est-ce que nous percevons Jésus comme ça, dans nos moments de difficulté? Est-ce que les yeux de notre cœur sont éclairés par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions voir tout ce qui s'attache à notre appel, tout ce qui s'attache à des choses que nous ne voyons pas encore, mais qui sont devenues tellement, tellement réelles pour nous, aussi réelles qu'on peut se voir? Ont besoin d'avoir cette perception spirituelle dans ces moments que le monde va traverser, dans ces moments que nos frères et sœurs qui sont déjà dans des persécutions terribles, elles perçoivent celui qui est invisible. Comme Paul, comme Moïse, Paul et Moïse veulent nous encourager vraiment à avoir ce regard dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 4, il nous est dit, c'est pourquoi, chapitre 4, verset 16, pardon, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, c'est pourquoi nous ne nous lassons pas, pourquoi nous ne nous lassons pas, pourquoi il faudrait ne pas perdre courage. Et l'apôtre continue à dire, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment
présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Et notre avenir, frères et sœurs, il est éternel. Et nous captons l'invisible. Et nous nous réjouissons des réalités invisibles que nous ne voyons pas encore et qui produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Dans quelle perspective, on ne comprend pas tout, mais comme Moïse, on les salue dans nos cœurs. On sait que c'est pour nous. On sait qu'elles sont réelles. Pourquoi ? Parce qu'il nous l'a dit. Parce qu'il nous l'a fait voir avec les yeux de notre cœur. On comprend que ça peut être étranger à ceux qui n'ont pas été éclairés, mais comme nous l'avons lu tout à l'heure, qui ont l'intelligence obscurcie. Et quand des inconvertis ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas cet énorme privilège qui nous est fait de voir l'invisible, de voir ce qui nous appartient, de voir ce qu'il nous a acquis. Paul était dans la difficulté. Au chapitre 1er, il raconte quand il était dans les difficultés dans 2 Corinthiens chapitre 1er, et il raconte le moment où il était lapidé, où à un moment donné, pour lui, c'était fini. Et quand il raconte, il avait eu deux sortes de regards. Deux sortes de regards dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8. Il nous dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. » Et là, il y avait le risque de se lasser, d'être découragé. Oui, même Paul. Au-delà, être accablé au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Dans la situation où il se trouvait, Paul, avec ses yeux physiques, il dit « ça y est, c'est fini, on est fait là. Hein. C'est fini, un caillou de plus, c'est fini, je suis mort là. Je suis mort. » Physiquement, découragé, il n'y a plus aucune possibilité. Mais son regard vers l'invisible, il fixe ses yeux sur la résurrection. Même au plus mal, dans une situation où il est accablé, ses yeux physiques lui montrent que c'est fini. Ses yeux du cœur, il regarde vers la résurrection, vers l'espérance glorieuse. Il faut que le cœur soit éclairé. Il faut que le cœur soit éclairé quand, dans une telle situation, on puisse encore se dégager de ce qui nous arrive et de regarder vers l'espérance qui nous est acquise. Il a regardé vers l'invisible à ce moment-là. Il était prêt. Il y a un passage dans Hébreux 11 où il nous est dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » C'est encourageant. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Mais ils n'ont pas regardé et ils n'ont pas obtenu les promesses. Mais ils ont regardé, ils ont vu et salué de loin toutes les promesses auxquelles ils allaient avoir part maintenant dans la gloire. Et finalement, on n'est qu'étrangers voyageurs sur la terre. Ils n'ont pas obtenu les promesses, mais ils les ont vues et saluées de loin. Pour eux, les promesses, même s'ils ne les ont pas vécues sur la terre, les promesses célestes, elles étaient dans leur cœur. Et comme eux, comme eux. Toutes ces promesses doivent réjouir nos cœurs. Et on était comme eux. Quand le Seigneur nous dit, ne vous découragez pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, mais il y a plusieurs demeures. En quoi consistent ces demeures? J'en sais rien. J'imagine que ça va être grandiose. Quand je vois mon petit appartement, je me dis, attends, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, notre foi, notre espérance, elle repose sur des choses glorieuses que je ne vois pas encore. J'ai jamais vu ces demeures qu'il est en train de préparer. Mais dans nos cœurs, frères et sœurs, elles sont aussi réelles. Elles sont aussi réelles que quand mes yeux physiques regardent des belles demeures. Mais je me dis, il a encore mieux. Il a encore mieux, alors on n'a pas à être jaloux. Il a encore mieux. Mais c'est aussi, même si je ne les ai pas vus, même si je n'ai pas, je suis limité, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et voyez-vous, frères et sœurs, Jésus lui-même a vécu cette prière. Jésus lui-même a vécu cette prière. On revient à Hébreux. On l'a lu tout à l'heure, mais on revient à Hébreux 11. Ça va, je ne suis pas trop long, non? Je ne vous prends pas. Ça va? Avec les masques, je sais que c'est pas facile. Je continue? Oui, ça va. Bon. Hébreux 12. Je suis dans l'Apocalypse. Hein? Hébreux 12. Il nous est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a supporté, le Seigneur, qu'on le fasse mourir sur la croix, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée dans les cieux. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Mais sur terre, le Seigneur à Gethsémané considérait avec ses yeux physiques ce qu'il était en train de vivre, et personne ne peut réaliser ce qu'il a vécu à Gethsémané. On n'a même pas à y mettre les mains tellement. On ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il a souffert à Gethsémané. Et lui-même pouvait dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ses yeux physiques, voyez ces grumeaux de sang qui coulaient, il n'y avait plus d'espérance terrestre, même pour lui. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais les yeux de son cœur étaient fixés sur la rémunération et sur sa récompense. Et sa récompense, mon frère, ma sœur, sa récompense, c'est toi, c'est moi. Alors oui, il pouvait dire et considérer avec ses yeux physiques, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais la perspective, les yeux de son cœur faisaient que il te voyait déjà toi dans la gloire. Et il te voyait avec lui dans la gloire, frères et sœurs. Il te voyait avec lui. Il a affronté ça à Gethsémané sur la croix. Il l'a affronté. Mais les yeux de son cœur étaient éclairés pour qu'un jour tu puisses vivre une autre prière, une prière que le Seigneur lui-même a fait à son Père. Et il lui a dit à son Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné le soit aussi. Et en vue de cette espérance dans la gloire, c'était pas encore fait. Mais en vue de cette espérance dans la gloire, il nous voyait déjà avec lui. Pour que toi-même, tu puisses vivre cette prière, afin que tu puisses voir sa gloire auprès du Père. Il l'a vécu, cette prière. Il l'a vécu. C'est pour ça, qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et un jour, nous dit l'Épître aux Hébreux, il va arriver dans la gloire. Il va arriver avec chacun de ses bien-aimés. Et il va dire à son Père, « Père, me voici, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. » Ses yeux physiques, oui, ont vu des choses terribles dans ce jardin de Gethsémané, ont supporté des choses physiques. Mais les yeux de son cœur, nous voyaient déjà avec lui dans la gloire, frères et sœurs. Quel sauveur glorieux! Que l'Esprit de Dieu nous aide à percevoir. C'est vrai que sur terre, les choses visibles parfois nous font tant de mal et tant d'occasions de nous lasser, de nous décourager. Mes frères et sœurs, ne laissons pas le manipulateur du visible nous lasser et nous décourager, frères et sœurs. Ne le laissons pas, ce manipulateur du visible, dans nos épreuves, que nos yeux physiques et les yeux de notre cœur vraiment soient en harmonie, éclairés par l'Esprit de Dieu dans la bonne direction, afin de demeurer ferme comme voyant celui qui est invisible. Vous vous souvenez de cet épisode avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Vous vous souvenez, quand ils encerclent Élisée, ils veulent le capturer. Alors ils sont là, les Syriens sont là, avec les chars, avec toute l'armée, et Géasi sort. Alors il est effrayé, épouvanté. Aïe, 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 aïe. Il raconte, Élisée, viens, regarde. Et Élisée lui dit, ne crains pas. Ceux qui en sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Géasi, il avait son regard physique. Élisée, lui, avait cette perception spirituelle. Et il va faire cette prière. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Le Seigneur lui a ouvert les yeux à Géasi. Et il a vu tous les chars de l'armée céleste qui étaient là. Ceux qui sont contre nous sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, ils sont plus glorieux, ils sont plus puissants. Oh, Église du Seigneur, ils sont plus puissants, ceux qui sont à nos côtés. Que les yeux de notre cœur vraiment s'ouvrent. Pierre nous dira, vous qui l'aimez, sans le voir encore, vous qui croyez en lui, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, car vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. On ne le voit pas encore avec nos yeux physiques, mais les yeux de notre cœur le voient. Il le voit. Celui qui est abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Oh, quand nous marchons avec cette vision éclairée du Saint-Esprit, ça nous aide dans nos temps de découragement, frères et sœurs. Ça nous aide. Le monde ne me verra plus. Mais voilà notre privilège. Mais nous, nous le verrons. Nous pouvons le voir dans tous les domaines de notre vie. C'est notre privilège, cette vision vraiment qui nous transforme. Elle transforme nos vies, elle guide nos vies, elle nous aide dans notre manière d'être. Et notre manière d'être est là pour finalement le glorifier dans ce monde. Il y a un petit chant qui nous dit, Seigneur, donne-moi ton regard, ouvre mes yeux à ta façon de voir et apprends-moi à partager l'espoir. Amen.